Je vous expliquais que concernant le décret sur la qualité de l'air intérieur, il propose deux options. Je vais parvenir sur la première option qui est relativement simple vis-à-vis des propriétaires de bâtiments. Il suffit simplement, entre guillemets, de contracter un bureau d'études COFRAC et puis de faire réaliser les mesures. Donc je vais, moi, vous présenter plus précisément la deuxième option qui est justement l'application du guide pratique pour une meilleure qualité de l'air intérieur, l'objectif étant de faire en sorte de ne pas introduire de polluants dans le bâtiment. Première option étant de mesurer s'il y en a, la deuxième étant simplement de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, comme ça on n'aura rien à mesurer. Je vous ai expliqué ce matin, la première étape, c'est d'informer les personnels ainsi que les parents d'élèves en ce qui concerne les établissements scolaires. Première étape, c'est donc de mettre cette affiche sur la porte d'entrée des établissements pour qu'il y ait une communication sur ce qui va se faire derrière. L'étape suivante, je vous en ai parlé, c'est donc de réaliser déjà une sensibilisation auprès de tous les acteurs, expliquer ce qui va se faire dans le bâtiment, pourquoi on le fait et quels sont les enjeux pour les occupants. Cette sensibilisation inclut ici les parents d'élèves et par rapport à l'expérience que l'on a eue, ça nous est arrivé en effet d'avoir en face de nous les parents d'élèves qui posent un certain nombre de questions, ce qui est tout à fait logique, je dirais, et ce qui permet aussi de mettre tout le monde, tous les acteurs, tous les utilisateurs du bâtiment au même niveau d'information sur ce qui est demandé par le gouvernement par rapport via ce décret. Ensuite, je reviens sur la démarche. Première étape, c'est vérifier, enfin contrôler, faire une évaluation des moyens de la ventilation, de ventilation dans le bâtiment et des ouvrants. Alors là, je vais vous passer quelques photos toutes bêtes. Un bâtiment, on disait tout à l'heure qu'il fallait ouvrir les locaux, ouvrir les fenêtres aux intercours. Ben voilà ce qu'on voit dans certains établissements recevant du public, dans certains établissements scolaires. Bon, vous imaginez bien que là, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Mais malheureusement, c'est ce qui existe et ça fait partie du contrôle. On doit notifier combien il y a d'ouvrants dans les pièces et combien peuvent réellement, physiquement, s'ouvrir. C'est pas simplement je vérifie que c'est accessible. Non, non, c'est physiquement on vérifie que ça puisse s'ouvrir. Ça concerne les ouvrants, mais on va plus loin au niveau de la ventilation. Vous imaginez bien que malheureusement, là, on ne va pas pouvoir extraire suffisamment d'air dans le bâtiment. C'est du vécu, hein, c'est ce qui se fait régulièrement ce qu'on voit malheureusement assez régulièrement. Et puis ça va jusqu'à même, là c'est un petit peu plus complexe, on avait une bouche de ventilation dans un plafond, et puis c'était curieux de ne pas avoir d'extraction, et en fait c'était tout simple, c'est que y a pas de conduit derrière. Bon, voilà, ça fait partie des audits que l'on fait dans les bâtiments et qui nous permet justement d'apprécier un petit peu l'état des bâtiments. Et malheureusement, on arrive à un constat sur ce que l'on a pu visiter comme bâtiment, que à peu près 3/4 des bâtiments sont peu, voire pas du tout ventilés. Comme on dit depuis ce matin que la ventilation est principale dans la bonne qualité de l'air, bon, ben. La première étape, elle est à ce niveau-là. L'étape suivante après le contrôle de la ventilation, c'est les questionnaires. Donc, je vous en ai parlé ce matin. Là, c'est une des questions qui est posée. L'objectif étant pour chacun des acteurs, c'est de répondre à la question, est-ce qu'on respecte cette préconisation ou pas? Sachant que si l'action n'est pas respectée, eh bien, enfin, si la bonne pratique n'est pas respectée, il va falloir enfin, rechercher des solutions ensemble avec l'utilisateur et les acteurs dans le bâtiment. Si évidemment on trouve la solution qui solde le problème là, le plan d'action s'arrête à ce niveau-là. Par contre, si on ne trouve pas de solution, il y a dans les questions, entre autres, est-ce qu'on a une entreprise utilisant des produits chimiques à moins de 3 km ? Évidemment, on ne va pas déplacer l'école. Donc, c'est un point bloquant. Et dans ce cas-là, eh bien, il peut être amené à mesurer les polluants, le polluant qui concerne en effet la production chimique. Ensuite, et décliné par rapport à tout ce qui est bonne, enfin plutôt mauvaise pratique, et décliné un plan d'action. Donc le plan d'action reprend toutes les questions qui sont posées dans les différents questionnaires. Donc je rappelle, il y a 4 questionnaires sur les différents métiers. C'est la fin du dispositif qui est demandé par le gouvernement, c'est-à-dire de mettre en place, d'avoir un plan d'action. Ce plan d'action doit être disponible dans l'établissement. Il n'y a pas besoin qu'il soit remonté en préfecture, mais il doit être consultable dans le bâtiment. Normalement, à la fin du dispositif. Après, il peut y avoir d'autres étapes. En ce qui nous concerne, on propose d'aller plus loin et de 6 mois après, revisiter ce plan d'action, parce qu'il peut y avoir certaines actions dont on s'était mis d'accord lors de la première étape et s'apercevoir que 6 mois après, ben en fait, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc le but étant de retrouver une autre action pour faire vivre ce plan d'action. Autres outils qui sont proposés dans la méthode, il y a aussi les utilisateurs en fait, du bâtiment qui sont, en ce qui concerne les établissements scolaires, les enfants. Et il y a des guides, un guide pédagogique, pareil, dans les mallettes, qui font partie de dispositifs. Une mallette qui permet justement de créer un petit carnet scolaire, un carnet aux élèves, pour accompagner toute la démarche qui est faite au sein de l'établissement. Je vous avais dit, donc en effet, comme les parents d'élèves sont informés, c'est une mallette qui permet, avec le corps enseignant et les enfants, d'aller détecter quels sont les polluants dans le bâtiment, voire à l'extérieur du bâtiment, dans le bâtiment, au niveau de la classe, et ce qui permet à chaque enfant d'être acteur aussi dans sa responsabilité d'avoir un environnement sain dans sa classe. De le responsabiliser par rapport à ça. Dernière étape que le mois dernier, j'ai un maire d'une commune qui me dit qu'il avait réalisé tout ça, c'est-à-dire que la ventilation était opérationnelle, les ouvrants étaient fonctionnaient, tous les questionnaires ont été rendus et il y a un plan d'action qui était lancé. Et concrètement, il m'a dit c'est bon, j'ai fait mon boulot, quoi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je lui dis que non, c'est pas fini, parce qu'en fait le problème c'est que aussi bien l'enveloppe du bâtiment et ce qui est dedans peut être au mieux de sa sainteté, je dirais, de la santé, les élèves apportent eux aussi des polluants dans leur cartable et arrive aussi dans la mallette pédagogique, il est proposé un site internet qui est appelé le cartable sain, qui va aider les parents d'élèves à faire le choix du matériel scolaire qu'il va apporter dans son cartable et qui va permettre en effet de sélectionner les produits sains de ceux qui le sont moins et de pouvoir faire en sorte que aussi ce chapitre-là, l'élève va venir avec des produits plus sains et donc éviter d'introduire une fois de plus dans le bâtiment des produits pouvant apporter des polluants. Une étape aussi qui est proposée, que l'on propose de notre côté, c'est que par rapport aux différents questionnaires, on a décliné les mauvaises pratiques qui peuvent être faites dans une charte qui correspond, enfin une charte par acteur dans le bâtiment, de façon à ce que dès qu'on a un mouvement de personnel, dès qu'on a une personne, un instituteur qui vient au courant de l'année ou en début d'année scolaire, il n'est pas besoin de lui rappeler, de lui refaire signer tout le lui faire re-remplir tout le questionnaire. En fait, il suffit simplement de lui faire signer la charte qui l'engage à, on parlait tout à l'heure d'ouvrir les fenêtres entre chaque intercours. Dans ces documents sont recensés tout ce qui est censé être fait par les différents acteurs, donc les quatre acteurs dont on a parlé tout à l'heure, et ce qui permet, une fois qu'il l'a signé, de, entre guillemets, le responsabiliser sur sa mission. Et ça permet chaque nouvel acteur, nouvel arrivant dans le corps pédagogique, d'avoir toujours la liste de ce qui le concerne dans sa mission. Ces chartes sont donc à signer dès que la personne arrive et permet aussi d'avoir un lien par rapport à une activité. La question qui était posée ce matin, c'était combien de temps prenait ce dispositif. Et ben, le dispositif, il peut vivre à partir du moment où il a été lancé une première fois. On n'est pas obligé de revenir sans arrêt. L'acteur, le propriétaire du bâtiment peut continuer à réaliser cet audit. Un point que je n'avais pas en effet reprécisé, mais j'en avais parlé ce matin, toute cette démarche peut être faite par l'acteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau d'études qui vient réaliser cet audit. La petite différence, c'est que bon, vous avez compris qu'il y a quand même quelques petites notions en termes de ventilation à savoir, puisqu'on a audité le système de ventilation. Le fait aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient questionner les équipes apporte aussi un peu de prise de conscience de la problématique, ainsi que ça demande du temps. Donc il y a quatre questionnaires à faire remplir par tout le personnel. Généralement, les collectivités n'ont pas forcément le temps de se pencher sur ce sujet. Ce qui est important, c'est que tous les acteurs puissent intervenir et à tous les niveaux, on puisse toucher ces personnes, donc aussi bien les utilisateurs du bâtiment que les parents. Et c'est pour ça que la dernière étape, selon je vous parlais, on propose à chaque rentrée scolaire un petit recueil qui puisse être transmis aux parents d'élèves juste avant à la rentrée, en fait, pour qu'ils puissent acheter leurs produits avec l'accompagnement du cartable sain. Et ce produit, ça se... Dans ce site internet sur le cartable sain, on en a parlé aussi ce matin, il est indiqué, il va un peu plus loin que la partie scolaire, mais aussi il y a des guides sur tout ce qui peut être acheté au niveau de la maison. Il y a tout un outil pédagogique pour pouvoir apprendre à en effet s'équiper de meubles, de revêtements de sol. Enfin, tout est bien explicité dans ce site, n'hésitez pas. Le cartable sain, c'est un bon outil pédagogique aussi pour apprendre à acheter des produits sains.